LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Jiraiya, dans Naruto, il a les cheveux longs, mais ça lui permet d'utiliser plein de techniques pour se protéger. Il peut les transformer en aiguilles pour se protéger. Il peut attraper des choses avec. Il a les cheveux blancs et longs et qui lui arrivent jusqu'aux fesses.
Moi, j'aimerais bien voir la coupe de Olivier Giroud.
Moi, j'en trouve qu'un seul qui est bien, et c'est Zidane.
Les cheveux en quatre.
Et encore, sa fin de carrière en 2006. Il était chaud, mais c'est le seul qui est bien.
Épisode 3, l'art du cheveu.
Moi, je pense que mon père, il est beau, même s'il a des cheveux rasés.
Claudia Prolongeau, Clémence Grosse.
Comme la maîtresse voulait avoir des cheveux comme Madame Valenti, lisse. Et je voudrais avoir comme elle.
Donc mes deux parents sont châtains, mon grand frère est roux, ma sœur est brune et moi je suis rousse. Le roux est un allèle récessif, donc il ne se montre que si les deux parents, déjà il faut que les deux parents soient porteurs, et que les deux parents donnent cet allèle-là. Pour tout ce qui est récessif, en fait, c'est assez fréquent que les parents ou les frères et sœurs ne le portent pas, puisqu'il y a un croisement, c'est comme les yeux bleus ou les yeux verts, c'est que des récessifs aussi. Donc tout le monde nous demande pourquoi nous on est roux, personne ne demande pourquoi ma sœur est brune alors que mes parents ne sont pas bruns, et personne ne nous demande pourquoi aucun des enfants n'a les yeux bleus alors que mon père a les yeux bleus. Et en fait c'est la même chose, c'est juste que c'est plus voyant ou plus marquant, on va dire, la couleur de cheveux et cette couleur de cheveux-là. Donc on savait que c'était mes deux parents qui étaient porteurs. On a un peu cherché et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont trouvé, il fallait remonter à sept générations pour retrouver un roux dans la famille.
Le roux, c'est la couleur du diable, c'est une couleur maléfique, inquiétante.
Michel Perrault, historienne.
Pour les hommes comme pour les femmes, ce qui fait d'ailleurs que les petits garçons roux, genre poil de carotte, ont souvent été des petits garçons maltraités.
Quand mon frère est né, du coup, c'était le premier roux, on va dire, vivant de la famille. Donc, ça a été assez surprenant pour tout le monde. Mes grands-parents étaient très surpris. Et notamment ma grand-mère maternelle qui détestait les roux. Disons que c'était une autre époque. Elle avait beaucoup de mal avec cette couleur. Et du coup, ça a été très compliqué au départ pour la naissance de mon frère. Moi, quand je suis née, elle était habituée. Et finalement, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'elle avait tout un imaginaire autour de la rousseur qui était notamment lié au fait que dans sa petite ville d'enfance, en fait, il y avait une famille qui était extrêmement pauvre et qui était une famille de roux, donc elle a associé ça, puis c'était pas la même époque, elle a associé ça à quelque chose de sale, de pauvre, voilà. Et du coup, c'est resté dans son imaginaire très longtemps jusqu'à ce qu'on arrive, mon frère et moi, à lui changer la vision de la chose. Je vous rassure, ça s'est bien passé après.
Dans les classes, on se moque des roux, les rouquins, comme on dit. Mais ça, c'est vrai pour les garçons comme pour les filles.
Enfant, en tout cas, on avait beaucoup de moqueries. Mais lui, c'était une violence généralement physique et moi, c'était une violence généralement verbale. Je me rappelle que c'était pas bon enfant, quoi. C'était assez violent verbalement. Puis c'était tous les mythes aussi, les roupus... Enfin, je me rappelle plus de tout, mais c'est des trucs vraiment bêta, quoi. Mon frère, par exemple, il a plus eu à se battre contre l'image de l'homme roux, qui est considéré en général comme quelqu'un de fourbe, de pas fiable. Bon, ça, c'est tout l'imaginaire qu'on a autour de la rousseur, qui est certainement lié, j'imagine, aux figures de Judas. Souvent, même dans les images, dans les films ou dans les histoires, l'homme roux est fourbe, et le renard, dans Pinocchio, c'est un renard roux, et c'est pas non plus un hasard... Moi, c'est évidemment le syndrome de la petite sirène, une des raisons pour laquelle je me suis coupée les cheveux, parce que j'en ai eu ras-le-bol, de la femme fatale. D'ailleurs, dans la manière qu'ont les hommes de m'aborder, parfois, je le vois beaucoup. D'ailleurs, il y en a qui me le disent explicitement, ils n'ont jamais couché avec une rousse, donc ça leur permet d'agrandir leur palmarès.
Toulouse-Lautrec, qui représente beaucoup les chevelures des femmes, représente beaucoup de rousses. Chez lui, c'est dominant parce qu'il représente beaucoup de prostituées.
Oui, il y a des moments où je suis abordée, même dans la rue, parce que je suis rousse, en fait. Qu'importe si je leur plais physiquement ou pas, c'est très lié à la couleur du cheveu. Parfois, ça m'est arrivé à Saint-Lazare, par exemple, j'étais au lycée, j'attendais des amis, et il y a un homme qui est venu... Je sais pas, il devait avoir une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, qui m'aborde, pas de bonjour, rien. J'ai toujours été impressionnée par les rousses. Il a commencé à me draguer, enfin à me draguer sexuellement, quoi, de... Je voudrais coucher avec vous, quoi. Et en fait, bah, toi, t'es au lycée, t'attends juste tes copines. Te considère comme un objet sexuel d'emblée, alors que c'était pas le lieu. Enfin, on est au milieu d'une guerre, quoi. Je suis pas dans un club, donc...
Et là, on retrouve l'association de la chevelure rousse à une sensualité dévoyée, prostitution, etc. Autrement dit, oui, les couleurs et le sens des couleurs, c'est important dans la société et c'est évidemment très important pour les peintres et dans la symbolique.
C'est un peu difficile, je pense, de faire la part des choses dans ma personnalité entre ce qui est lié à mes cheveux et ce qui est lié à mon tempérament. Parce que c'est vrai que... Je pense que la couleur de mes cheveux a forcément impacté mon caractère. Ça fait tellement partie de moi que, en fait, mes cheveux, ça fait partie de ma personnalité. Alors, je sais pas si c'était inné ou si je l'ai développé parce que j'ai cette couleur de cheveux dans cette société d'aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, extraverti, souriant. Enfin, je me lance pas des fleurs, mais en tout cas, j'ai un tempérament... dynamique, quoi. Et je ne sais pas dans quelle mesure où c'est ma personnalité vraie ou si c'est une personnalité que j'ai développée pour contrer aussi tout ce que je me tapais en violence verbale. C'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup être mise en avant, être regardée, et si ça se trouve, ça vient de là, du fait qu'on me regardait malgré moi aussi. Et d'ailleurs, j'ai été longtemps un peu paniquée à l'idée d'avoir les cheveux blancs. Non pas parce que le blanc est une très belle couleur, mais c'était plus le fait de si j'ai plus mes cheveux roux, quelle personnalité je vais avoir sans mes cheveux flamboyants. C'est pas du tout le problème du cheveu blanc, c'est plutôt qui suis-je après, quoi. Bah, on verra. Mais je pense que ça va aller.
Donc, le roux, c'est la couleur du diable. Et le blond, c'est l'innocence, d'un côté, la sensualité aussi. Le brun est plus inquiétant. C'est... souvent la femme séductrice, un peu, oui, il y a quelque chose d'inquiétant. Ceci dit, le brun dans les chevelures de femmes a été au XIXe siècle très diffusé par l'influence de l'Espagne. Il y a eu une hispanisation de la peinture, Goya, beaucoup, on l'a beaucoup aimé. Et à ce moment-là, les femmes sont devenues beaucoup plus brunes. Il y a une beauté romantique brune. Méditerranéenne aussi, qui s'oppose un peu au blond allemand, qu'on aime un peu moins à cette époque-là, le blond allemand, le blond scandinave. Autrement dit, derrière les représentations des couleurs, il y a souvent des événements politiques aussi. Il y a souvent de l'influence du nationalisme, des nations, disons.
Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux. Y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l'eau d'une source. Et les agiter avec ma main, comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l'air.
Donc, je suis Alain Bergalin. J'ai été longtemps critique au Cahier du cinéma. Ensuite, j'ai fait des films et j'ai aussi commencé une activité de faire des expositions, dont l'exposition Brune Blonde. Bon, d'abord, les cheveux de femme, au cinéma, c'est central, puisque quand on filme une femme, en général, elle a des cheveux. Mais si vous voulez, le fait qu'il y ait des femmes et des cheveux de femme dans tous les films ne veut pas dire du tout que pour chaque cinéaste, l'investissement est le même. Il y a des cinéastes pour qui... c'est un truc un peu secondaire ou décoratif. Et il y a des cinéastes pour qui c'est essentiel. Et même c'est, pour Hitchcock, c'est le centre de son œuvre à peu près. Buñuel aussi, c'est-à-dire il y a des cinéastes pour qui c'est pas juste un élément parmi les autres dans le film. C'est quelque chose qui est moteur, qui les incite à écrire des histoires et à filmer, à faire des plans, etc. Donc je pense que tous les gens qui connaissent bien le cinéma, si on leur dit quel est le cinéaste chez qui la chevelure a été essentielle, tout le monde vous dira Hitchcock, vraiment, parce que c'est une obsession, c'est une construction dramatique, c'est des scènes qui fait que pour ça, c'est-à-dire chez Hitchcock, il y a une obsession absolue et il s'en sert dans ses histoires. C'est pas juste qu'il serait fétichiste des cheveux de femme, c'est que pour lui, c'est un moteur de narration. Et Quand une femme, par exemple, se teint les cheveux, dans un film d'Hitchcock, on la voit sur le lavabo, on voit la couleur qui disparaît, etc. Parce qu'évidemment, pour lui, ça joue sur l'identité du personnage. Une femme qui change de couleur de cheveux, c'est plus le même. Sur la dualité, sur les possibilités de changer, comme ça, de comportement. Donc, pour lui, c'était absolument essentiel.
Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux, mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique.
Charles Baudelaire, Un hémisphère dans une chevelure, 1869.
En fait, aujourd'hui, on pense que la blonde et la brune, ça a toujours existé sous cette forme-là. C'est-à-dire la blonde et la séductrice, et la brune, même dans un mauvais téléfilm français aujourd'hui, c'est la secrétaire ingrate, et la blonde, c'est la femme séduisante. Voilà, on est dans les très très gros clichés, mais ils ont historiquement existé. Donc, au départ, jusqu'aux années 30 à peu près, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la femme séduisante, dangereuse, c'est la brune. Et la blonde, c'est la femme domestique. Après, ça va s'inverser à 100%. Dans tous les films hollywoodiens, en général, globalement, la femme dangereuse, c'est la blonde. Enfin, dangereuse, qui peut séduire un homme, qui peut l'enlever à sa femme, etc., c'est la blonde. Et la brune est toujours un peu en retrait, c'est toujours, elle est plus ingrate, enfin, dans le rapport à la séduction. Voilà, donc ça, c'est... Il s'est passé plusieurs choses. Bon, d'abord, il y a eu la guerre. Il y a Hitler qui énonce le fait que la race supérieure, c'est les blancs. Ça s'est transmis de façon presque populaire. Et du coup, il y a eu ça, et il y a eu la possibilité technique de devenir blonde à la maison, fait que la mode s'est répandue de façon absolument incroyable. Et les Américains, le cinéma américain, s'en est emparé aussi.
Mettez dans votre vie de la variété, de la beauté, de la jeunesse, avec Mousse Color, le shampoing colorant haute fidélité.
Le blond Mousse Color. Oh, le noir profond Mousse Color. Ah, le blond acajou Mousse Color.
Et alors au cinéma américain, c'est étrange parce que certaines grandes stars blondes ne l'étaient pas.
Ah, Mousse Color. Quel shampoing colorant, 26 teintes haute fidélité.
Comme en France, Catherine Deneuve n'était pas blonde. La blondeur lui a été imposée, enfin, si on peut dire, par Jacques Demy et tout ça, puisqu'il y avait sa sœur qui était brune. Il y avait aussi l'idée de... C'est très important au cinéma, c'est-à-dire dans beaucoup de films, il y a la blonde et la brune.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré.
La blondeur est devenue, c'est une qualité qu'on a imposée artificiellement en disant, toi tu seras une star, donc c'est hors de question que tu ne sois pas une blonde. Donc on a blondi les actrices, et pour certaines ça a été le succès immédiat, alors quand elles étaient brunes, non.
De la fantaisie à Bobo, nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux.
Les cheveux, moi je les rencontre, la Genèse n'en parle pas, hein, dans la création de l'homme par Elohim.
Bertrand Lançon, historien.
Alors que leur importance par l'art est nettement visible et perceptible dans les sculptures babyloniennes et assyriennes, où l'on voit des rois représentés avec une barbe tressée, avec des cheveux tressés, où la longueur et du cheveu et son soin cosmétique sont visiblement signes de royauté et de pouvoir. Donc, je dirais, comme l'écriture, l'histoire du cheveu commence pour nous en Mésopotamie au 3e, 2e millénaire avant Jésus-Christ.
Et d'ailleurs, dans l'art chrétien, la représentation de Marie-Madeleine avec sa longue chevelure est extrêmement importante, au portail des cathédrales, dans les fresques, etc.
Michel Perrault.
Si l'on regarde, mettons, l'art médiéval, Marie-Madeleine, elle est la prostituée repentie, la femme repentante, qui dans ce repentir vient au pied du Christ et essuie ses pieds avec ses cheveux. Sa chevelure de la tentation et du péché devient une chevelure qui s'occupe du Christ, ses pieds, les essuie, les lave, etc. Alors, si on parle de représentation artistique, Ève aussi. Ève est toujours représentée dans l'art chrétien avec une très longue chevelure. Nue avec une longue chevelure. L'explosion de la représentation de la chevelure des femmes, c'est la Renaissance. Le Titien, le Tintoret surtout. Les chevelures blondes du Tintoret associées à la beauté enfin, des femmes et à leur sensualité. Et d'une certaine manière, Tintoret donne raison au père de l'Église, parce qu'il représente le corps des femmes, leur nudité, leur pouvoir érotique et leur chevelure. Elles sont toujours, cette nudité est associée à une longue chevelure blonde, c'est très important. Et il y a aussi, peut-être plus chez le Titien d'ailleurs, des chevelures tressées. Le cheveu se fait coiffure, et la coiffure est encore une manière de mettre en lumière, la chevelure des femmes. Alors, il y a dans tous ces peintres de la Renaissance, à la fois des chevelures déployées sur le corps et des chevelures tressées, généralement en chignon, en très gros et beaux chignons, qui sont alors pour les femmes convenables, les femmes aristocratiques ou autres, qu'on représente habillées, là il n'est plus question de nudité, mais on montre quand même la beauté de leur chevelure à travers ces coiffures, qui sont une manière de mettre en valeur les cheveux. Alors si on galope à travers le temps, chez Watteau, il y a pas mal de cheveux de femmes aussi, hein, tout à fait belle chevelure intéressante, et bien entendu l'impressionnisme. Alors là, on saute par-dessus le 19e, on arrive à la fin du 19e. Dans l'impressionnisme, les femmes chez elles, les femmes au jardin, hein, sont évidemment un thème de représentation. Et les cheveux jouent un grand rôle. Il y a un peintre de la chevelure des femmes, c'est Renoir. Qu'il les représente au piano, on se souvient des jeunes filles au piano de Renoir, les montre généralement avec leurs cheveux sur les épaules, ou alors dans le jardin. Et il y a aussi une suggestion chez Renoir, la chevelure des femmes avec la végétation. Les cheveux, c'est comme la nature sur la tête des femmes, avec les fleurs, avec le jardin. Autrement dit, tous ces peintres, ils le font pour la beauté, parce qu'ils aiment bien ça. Et en même temps, il y a une symbolique qui associe toujours la femme à la nature, à la douceur, à la volupté aussi. Voilà, tout cela est représenté dans la peinture.
Au cinéma, on pourrait imaginer qu'il y a d'autres moteurs. Mais les cheveux, c'est un moteur absolument facile, si j'ose dire, à mettre en œuvre. Puisque au cinéma, en gros, quand il y a une femme dans le cadre, qui est le personnage principal par exemple, les cheveux, c'est ce qui attrape la lumière, c'est ce qui attrape la forme. C'est-à-dire que les cheveux, c'est extrêmement malléable.
Alain Bergala.
Et on peut, même d'un plan à l'autre, on peut modifier le visage, on peut modifier uniquement en travaillant la question de la chevelure. Donc c'est essentiel. Et d'ailleurs, à Hollywood, il y avait un système tout à fait standard qui s'appelait l'éclairage 3 points. L'éclairage 3 points, c'était... Il y avait trois directions de lumière principale. Donc il y avait une lumière qui était la lumière principale qui est censée disait d'où venait la lumière. Après, il y avait toujours un éclairage en face pour qu'il n'y ait pas de zone trop d'ombre dans le visage. Et puis, il y avait la fameuse lumière derrière qui servait juste à décoller le visage du fond. Et c'est pour ça que dans énormément de films et de plans, et aujourd'hui, il y a des gens qui le font encore, il y a cette espèce de friselis de lumière derrière les cheveux. Donc, c'est une matière plastique essentielle et facile à agir. C'est pour ça que les cheveux ont eu un rôle aussi important dans l'histoire du cinéma. On s'aperçoit aussi, quand on travaille sur les cheveux de femmes, que le cinéma américain a quand même dominé le monde occidental. Les modes qui naissaient à Hollywood, elles arrivaient en France, elles arrivaient partout. Et évidemment, quand on fait cette histoire-là, on ne fait que l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire qu'évidemment, l'histoire des cheveux n'est pas du tout la même en Chine ou en Inde, si vous voulez. C'est une autre façon cinématographiquement de se poser la question des cheveux.
Le cheveu, c'est, j'allais dire, une matière qui est très résistante. Hein.
Michel Messu, sociologue.
C'est-à-dire, bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais lorsqu'on assemble des cheveux, c'est capable de supporter des poids énormes par rapport à la taille que représente le cheveu. Donc, les gens qui se suspendent par les cheveux, qui vont tirer des voitures avec leurs cheveux, enfin, bon, toutes sortes de spectacles très spectaculaires, justement, de ce type-là. Et puis, il y a la dimension symbolique du cheveu, c'est-à-dire, on va lui attribuer une force au sens où il représente en fait la force interne de la personne. Alors, bon, on connaît tous Samson, bien sûr, dont la force résidait dans le cheveu, qui était à la fois une force physique, puisque on l'a bien vu, lorsqu'il perd ses cheveux, il est plus capable de terrasser ses ennemis, etc. Il faut qu'il attende que son cheveu repousse pour détruire le temple. Symboliquement, le cheveu était associé de ce point de vue-là à la force physique de l'homme. La force symbolique, on va aussi la voir à travers les gestes que l'on va pouvoir faire sur son ennemi. Lorsque on est dans des rapport guerrier, par exemple, on a une représentation aussi de son ennemi, et dans certains cas, dans certaines pratiques, dans certaines sociétés, alors on pense bien sûr aux Amérindiens, etc., qui scalpaient l'ennemi qui était terrassé, parce que dans ce cheveu, il y avait la puissance, la force énergétique, en quelque sorte, de l'ennemi, qu'on arrivait à capter, qu'on pouvait prendre pour soi. C'est-à-dire que le cheveu va marquer symboliquement le fait qu'on a vraiment détruit son ennemi et qu'on s'est en quelque sorte incorporé les capacités qu'il avait antérieurement.
Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de mâtures. Ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l'espace est plus bleu, plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine.
Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes, découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur.
Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan dans la chambre d'un beau navire, bercé par le roulis imperceptible du port entre les pots de fleurs et gargoulette rafraîchissante.
Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlée à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco.
Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs.
Alors ça, ce sont des cardes. C'est ce qui nous permet de ranger les cheveux pour les utiliser. Parce que les cheveux, on les reçoit en bottes. si on les prenait comme ça dans la botte mèche par mèche, déjà ils s'en mêleraient, ce serait très compliqué à utiliser. Donc ça, c'est des cartes qui permettent vraiment de bien les ranger. Comme ça, quand moi j'utilise mon cheveu à implanter, j'ai qu'à tirer une toute petite mèche et c'est celle-là que je vais utiliser. Et tout le reste reste bien rangé dans la carte. Le cheveu s'abîme pas, se mélange pas. Et il est rangé. Je sais aussi que là, j'ai mes racines, parce que le sens du cheveu est très important. Là, je sais que j'ai mes racines et là, je sais que j'ai mes pointes.
On commande la plupart du temps des cheveux de 40 cm. Et 100 grammes de cheveux de 40 cm, c'est 265 €, par exemple. Plus c'est court, moins c'est cher. Plus c'est long, plus c'est cher. Donc, on peut aller jusqu'à 500 € ou plus pour des cheveux de 60 cm. On n'arrive pas souvent à en trouver plus long que 60 cm chez les fournisseurs. Et on les achète pas souvent non plus parce que au bout d'un moment, vous avez 2 000 € de cheveux, vous n'avez pas encore commencé la perruque. Je suis Anne Weber, je suis la responsable du service perruque, coiffure, maquillage de l'Opéra National du Rhin. Ici, on se trouve dans l'atelier perruque au grenier d'abondance où il y a les ateliers de fabrication de perruques, de costumes, les accessoires, les salles de répétition des chœurs. On est 5 permanentes. Plus moi, qui s'occupe de la fabrication perruques, postiches, effets spéciaux, qui font aussi le maquillage sur le plateau. Donc on a différents postes de travail. On a des grandes armoires avec tous nos stocks de perruques, des grands tiroirs remplis de différentes couleurs de cheveux. On ne peut jamais connaître exactement la qualité qu'ils vont avoir quand on les commande, parce que notamment chez un des fournisseurs allemands, il n'y en a pas beaucoup des fournisseurs dans le monde, et nous, comme on est proche de l'Allemagne, on va aller plutôt chez un ou deux fournisseurs allemands. Eux les récupèrent notamment en Inde ou en Asie. Donc en Inde, c'est la plupart du temps les femmes qui se coupent, enfin qui se font raser même les cheveux en offrande au temple. Les temples récupèrent ces cheveux et les revendent à des fournisseurs de cheveux. On a environ 5 000 produits en stock, autant des perruques que des masques. C'est sûr qu'on a plus que la moitié en perruques. Donc ici, on a toutes les nuances de cheveux qu'on peut acheter chez nos fournisseurs de cheveux. Donc ça part du blanc, du blond, brun, roux, noir, gris. On a vraiment toutes les couleurs naturelles ou moins naturelles qu'on peut avoir dans la vie. Et puis on a aussi les couleurs vraiment artificiel, jaune, rouge, orange, bleu, qu'on utilise moins, mais qui, par exemple, là, le balai qu'on est en train de fabriquer, Sérénade, on a des perruques bleues, bleu nuit. Donc, pour le coup, là, on utilise des couleurs moins naturelles, mais c'est pas le cas tout le temps. Nous, on peut les acheter selon un nuancier. Donc voilà, en fait, on a des petits catalogues avec des mèches de cheveux de couleurs différentes. Et en fonction de ce dont on a besoin, on va commander par 100 grammes, la plupart du temps, aux fournisseurs. Sachant que les tulles qui servent à la calotte sont aussi entre 70 € et 100 € le mètre. Alors il nous faut moins d'un mètre pour fabriquer une perruque, mais si vous voulez, avec 2 mètres, vous allez peut-être fabriquer 2 ou 3 perruques si vraiment vous y prenez bien, mais ça reste quand même un coût. Après, il faut de la patience. Pour être perruquier, il faut de la patience, parce qu'une perruque, c'est environ 70 heures de travail. En gros, un cheveu naturel, parce qu'on utilise du cheveu naturel, il est traité d'une certaine façon. Donc, en fait, il n'y a quasiment plus rien d'humain dedans. Il n'y a plus vraiment d'ADN. Il y a eu des bains de produits chimiques qui font que tout est tué, entre guillemets, à l'intérieur. Par contre, il garde ses écailles. Donc, une perruque, si on l'entretient bien, ça dure des années, des années, des années. Donc là, nos armoires sont pleines de perruques qu'on peut utiliser sur les spectacles. Et à chaque spectacle, on les recoiffe, les perruques. Forcément, au bout d'un moment, à force d'utiliser le babyliss, le fer à friser, le fer à lisser, ça les abîme. Donc à la fin, on leur fait des petits soins pour leur redonner une bonne contenance. On évite de les couper le plus possible parce que ça coûte très très cher.
Donc, par exemple, quand on fabrique une perruque, on essaye d'utiliser le nombre de centimètres qu'il faut. Si maintenant, c'est une perruque longue, ben, on va utiliser 40 ou 50 centimètres. Mais si c'est une perruque courte, on va peut-être acheter que des cheveux de 15 ou 20 centimètres pour avoir le moins de pertes possible. Ou, depuis quelques temps, on fait partie d'une association qui s'appelle Coiffeur Juste, qui récupère les cheveux pour faire des boudins anti-pollution des océans.
Kabil, alors je me cite en tant que designer air couture. En fait, j'ai créé ce nom de façon à ce qu'on m'identifie, parce qu'on avait tendance autour du cheveu de m'identifier autour de la coiffure. Et c'est vrai que j'ai fait une école de coiffure, mais je n'ai pas fait que ça, parce que avant ça, j'ai fait une école de mode. Donc le fait d'avoir fait cette école de mode me permet aujourd'hui en fait de synchroniser la couture et la coiffure et en faire des œuvres. Donc c'est le mélange entre les deux, donc designer hair couture. Donc je suis Muriel Kabil, je suis née en Martinique et j'habite sur Paris. Je vais plus vers le cheveu synthétique pour avoir en fait les volumes, pour avoir la possibilité de maintien de la tresse. Et ça va aussi dans le sens de mon côté culturel où on utilise énormément de cheveux synthétiques pour tresser nos cheveux. Donc en fait, pour moi, la matière première que j'utilise autour du cheveu synthétique, elle est aussi symbolique. Elle n'est pas que dans le sens où je n'utilise pas de cheveux naturels parce que c'est trop cher ou parce que X ou autre raison. C'est aussi le côté culturel qui revient dans le sens où toute notre vie, on a porté et on porte du cheveu synthétique en permanence pour tresser nos cheveux, pour loxer nos cheveux, pour accessoiriser nos cheveux, et ça fait partie de notre culture en fait. Alors là, on a une tenue qui... alors, on dit robe parce que finalement, c'est ce qui revient le plus simple à dire. Mais pour moi, c'est neuf. Et c'est vrai que le but pour moi était d'habiller en fait un corps. Donc, de mettre le cheveu sur le corps au lieu de le mettre sur la tête. Donc, c'est la continuité d'une coiffure. Là, ça a été réalisé entre tressage et cheveux lâchés. Donc, on a sur le haut de la poitrine, en fait, cet effet un peu comme on retrouve dans les maillots de bain. Cet effet, en fait, de tressage qui descend, qui couvre la poitrine et qui finit en ceinture, donc tout est tressé, entrelacé les uns contre les autres. Donc ça a été cousu à la main, chaque pièce, alors c'est énormément d'heures de travail, chaque tresse prend du temps. Après, il y a aussi la longueur des tresses qu'il faut réussir à faire à peu près à l'identique, qui n'est pas toujours simple à faire. Et après, il y a le travail de rassemblage des tresses, les unes à côté des autres, et de former en fait l'aspect bustier ou l'aspect de cette création qui a été faite autour du cou. Donc là, je me suis aussi basée sur le plastron que j'avais un peu réalisé pour le Festival de Cannes. Donc on a cette base qui recouvre le cou et qui descend au niveau de la poitrine, qui fait que derrière on a un dos nu. On a au niveau de la taille donc une ceinture de tressage, la robe, entre guillemets la robe. L'œuvre est en fait réalisée avec une seule texture qui est celle de cheveux synthétiques, parce que ça consiste à prendre énormément de cheveux et le cheveu a été travaillé de façon à être crêpé pour donner cet aspect de mi-texture entre cheveux lisses et cheveux crêpés.
Donc là, qu'est-ce que vous faites ?
Alors là, je suis en train de tresser. En ce moment, je suis en train de créer des pièces, parce qu'il faut savoir que je fais aussi des bijoux de cheveux ou des accessoires qui se mettent sur la tête, des plastrons, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets. Donc là, je suis en train de travailler une fine, fine tresse pour réaliser une spirale qui sera donc cousue tout en spirale. Donc la tresse de cheveux très, très fine pour réaliser en fait une bague. Il faut savoir que là, j'ai utilisé des mèches synthétiques. Elles sont blondes. En fait, il y a deux couleurs de blond, un blond platine et un blond cendré, qui sont mélangés et ça donne un aspect assez caractéristique, en fait. Et j'utilise pas mal de coris aussi, parce que du coup, les coris me rappellent l'Afrique. Ce sont des coquillages naturels qu'on retrouve beaucoup sur la plage et ce sont aussi des porte-bonheur.
saisir la chance par les cheveux.
Ne pas toucher un cheveu de quelqu'un.
Avoir les cheveux qui se dressent sur la tête.
Se faire des cheveux blancs.
Se crêper le chignon.
Tomber, arriver comme un cheveu sur la soupe.
Être coiffé sur le poteau.
Avoir les cheveux en bataille.
Se pogner ou se prendre aux cheveux.
Manquer d'un cheveu.
Être à un cheveu près.
Avoir un cheveu sur la langue.
Rougir jusqu'à la racine des cheveux.
Tirer par les cheveux.
Avoir mal aux cheveux.
Saisir l'occasion par les cheveux.
Trois pelés et un tondu.
Vers 400, Synésius a perdu ses cheveux. Et lui aussi, comme dans la société gréco-romaine, c'était une forme de honte.
Bertrand Lançon.
Et comme il était rhéteur, il avait lu un traité écrit au début du IIe siècle par Dion de Pruse, de l'entourage de Trajan, qui s'appelait l'éloge de la chevelure. Synésius de Cyrène décide d'écrire, c'est un plaidoyer pro domo pour sa propre personne, un éloge de la calvitie.
Je prétends donc établir qu'un chauve n'a pas du tout à rougir. Qu'importe en effet qu'il ait la tête nue, s'il a l'intelligence velue. Morts eux-mêmes sont les cheveux, car les poils ont beau pousser sur les êtres vivants, ils sont privés de vie. Plus un animal en est recouvert, moins il a d'intelligence. Que l'on n'en est pas du tout et l'on est au-dessus des autres hommes comme l'homme est au-dessus de la bête. De tous les êtres qui vivent sur la terre, l'homme est celui qui a le plus d'intelligence et le moins de poils. Mais tout le monde convient que de tous les animaux, le plus stupide, c'est le mouton. Or, voyez comme est fourni, comme est épaisse sa toison. Il semble donc bien que poils et raison ne s'accordent point. Nulle part on ne les trouve réunis. Si parmi les animaux l'homme tient le premier rang, parmi les hommes, celui qui aura l'heureuse fortune de perdre ses cheveux, le chauve, est ce qu'il y a de plus vénérable ici-bas.
Et donc l'éloge de la calvitie est une critique, en même temps qu'un jeu littéraire, un texte où se trouvent valorisés les crânes lisses. Synésius de Cyrène convoque plusieurs exemples, les philosophes grecs comme Socrate qui possédait un crâne lisse, disant que, de la sorte, la calvitie a non seulement sa propre dignité, mais une dignité supérieure aux cheveux qui lui ramène à la bestialité. L'homme chauve, dit Synésius, a une voûte crânienne qui ressemble à la voûte céleste. Les soldats spartiates, pratiquement invincibles, ont un casque lisse qui ressemble à un crâne chauve. Pour lui, le chauve est plus près du divin. Et pourquoi l'iconographie n'aurait-elle pas fait un Christ chauve? Il aurait été en quelque sorte un super philosophe. La réponse peut être esquissée, c'est que le modèle iconographique qui a défini le Christ comme un homme à cheveux longs et barbu, qui date en gros du 5e-6e siècle, c'est le modèle des moines syriens. C'est le modèle monastique qui a triomphé dans la représentation du Christ, alors que, je le rappelle, sur les bas-reliefs du 2e siècle, voire du 3e siècle, Jésus est représenté comme Orphée, c'est-à-dire un pâtre bouclé sans barbe. Mais à partir du 5e, 6e siècle, lorsqu'on représente de plus en plus le Christ, il est représenté comme un moine et non pas comme un philosophe de Synésius de Cyrène, c'est-à-dire un barbu chauve. Ça aurait été Socrate. Représenter Jésus dans le cinéma ou sur les images aujourd'hui comme étant soit chauve, soit glabre, ça ferait scandale. Le grand front, c'est l'intelligence. Le crâne rasé et luisant, c'est la sagesse suprême.
Mais l'image de la victoire des Bleus, c'est ce baiser de Laurent Blanc sur le crâne de Fabien Barthez.
Fabien Barthez, sa boule à zéro, une image l'a durablement inscrite dans la culture populaire. Un baiser porte-bonheur déposé par Laurent Blanc sur le crâne de celui que l'on surnomme désormais le divin chauve.
On a pu associer, finalement, le crâne rasé à la force, à la victoire, au triomphe.
Un geste soi-disant libérateur, mais dont les chauves eux-mêmes ont du mal à assumer les conséquences.
Pas plus tard que
avant-hier, je suis au resto, et il y a une serveuse qui m'amène un truc, et elle me fait « Allez, ah, ça va me porter bonheur !» Je crois que ça vient de ce truc de Barthez, et il a lancé un truc relou. C'est intrusif, quoi, quand même, un peu.
Barthez, il a une cicatrice derrière la tête, quand on regarde bien, et pourtant, il est chauve. Il a fait une greffe de cheveux, mais le problème, c'est qu'à l'époque où il a fait sa greffe de cheveux, c'était pas hyper bien développé en France. Ils lui ont implanté des gros greffons dans la ligne frontale. Ça donne un effet un peu comme sur les balais. Ça fait plusieurs cheveux qui partent d'une même source. C'est vraiment pas naturel. Ça se voit tout de suite, et quand c'est comme ça, vaut mieux se raser la tête, quoi. Je m'appelle Nicolas Boulez, j'ai 40 ans, j'habite à Nancy. Et je suis administrateur du site international Hair Loss Forum, qui traite de la calvitie et principalement de la greffe de cheveux aussi. Si vous voulez, il y a une échelle, on appelle ça l'échelle de Norwood. C'est une échelle en fait qui classifie la calvitie, c'est un peu comme l'échelle des tremblements de terre mais pour les chauves. C'est gradé de 1 à 7, et bon, moi j'étais 6 quoi. Bon, le 1, il n'y a pas de problème. Le 2, c'est des golfs qui sont un tout petit peu creusés. Le 3, c'est des golfs qui sont creusés. Le 4, ça commence à attaquer un peu le mid-scalp et la ligne frontale. Enfin, il n'y a plus de ligne frontale, plus de mid-scalp. Plus on progresse dans l'échelle, plus la personne est chauve. Sachant que le Norwood 6-7 correspond à... je sais pas, pour vous donner une idée, je sais pas, Nestor Burma, par exemple. C'est vraiment, on n'a plus de cheveux et on n'a plus que la couronne hippocratique derrière la tête, quoi.
Genre Zidane, il est à combien, par exemple?
Ouais, de mémoire, je dirais Norwood 6 qui tend vers le 7. C'est pas un bon patient pour la chirurgie. J'avais un entretien d'embauche, en fait, à la mission locale. Et à cette période-là, je me rasais la tête, en fait. Je pense que j'avais déjà... Enfin, je me rendais déjà compte que j'avais une calvitie, mais j'avais pas encore acté le truc. C'est-à-dire que je me rasais la tête, je mettais une casquette. Et bon, comme c'était un rendez-vous professionnel, j'ai pas mis de casquette. Je suis arrivé avec mon crâne rasé à l'entretien. Et... bon, après les questions traditionnelles, usuelles, professionnelles, j'ai mon interlocutrice qui m'a demandé si je me rasais la tête par conviction politique ou si j'étais malade. J'étais un peu sous le choc, quoi. Je savais pas trop quoi penser. C'était un petit peu un volcan mental, en fait. J'ai trouvé ça déplacé sur le coup, mais c'est plus en rentrant chez moi après que je me suis posé des questions. Pourquoi elle me demande ça? J'ai été me regarder dans le miroir, j'étais voir si j'avais une tête de nazi ou si j'avais une tête de malade et... Bon, je me suis dit, ouais, ok, il y a un problème. Et j'ai commencé vraiment à faire une fixette là-dessus à partir de là. Je devais avoir peut-être 20 ans. À partir de ce moment-là, je commence à me regarder tous les jours dans le miroir. Le premier truc que je regarde, c'est mes cheveux. Puis je vois qu'au fil du temps, j'en perds de plus en plus. Je commence à m'inquiéter de plus en plus. Du coup, bon, bah, je regarde les solutions qui sont disponibles, s'il y en a déjà. Je me suis plus ou moins décidé à faire une greffe de cheveux. Sachant qu'il fallait quand même que je mette de l'argent de côté, parce que c'est quand même pas donné, c'est une procédure qui a un coût. Moi, le prix moyen d'une procédure en France tourne entre 5 et 10 000 euros. En Turquie, c'est entre 2 000 et... Après, ça dépend du niveau des chirurgiens, ça dépend, mais je dirais que le prix moyen de chirurgie en Turquie est plutôt de 3 000 euros, 3 à 5 000 euros. Donc, j'ai vu qu'il y avait des bonnes clinique en Turquie, qui était plus réputée que les cliniques françaises, qui traitaient beaucoup de patients internationaux. Donc, je me suis décidé à aller dans la grande clinique turque, qui était un peu la référence à l'époque, qui s'appelle Transmed. J'ai fait ma première chirurgie là-haut, en fait. C'était 6 000 euros, je crois, à l'époque. Un peu moins de 6 000, non, 5 000 euros, un truc dans le genre. Avec le voyage, ça m'avait coûté 5 000 euros, ouais. C'était une grosse somme d'ailleurs, c'est mes parents qui ont payé, parce qu'à l'époque, j'étais jeune, j'avais pas de revenus. Je les ai usés jusqu'à ce qu'ils acceptent, quoi. C'est un peu leur gage de tranquillité aussi, quoi, parce que c'est vrai que je me plaignais souvent. Et... Bon, je pense qu'ils en avaient marre de me voir mal, vivre mal la chose. Donc, à partir du moment où ils ont vu que je me renseignais, que je faisais les choses sérieusement, que j'avais pris le temps de regarder, bon, ma mère, elle m'a dit, ok, vas-y, si c'est salvateur pour toi, vas-y, fais-le, quoi. Je vivais avec ma mère et ma grand-mère à l'époque. Je leur ai parlé de l'entretien que j'avais eu à la mission locale et même elles, ça les a choquées aussi. Elles ont pas trouvé ça normal. Et elles ont essayé de me rassurer, de me faire accepter la chose. Mais moi, j'étais parti dans mon complexe et ce que je voulais, moi, c'était absolument résoudre mon problème, quoi. Donc, elles étaient pas trop d'accord au départ parce que, j'étais jeune. J'ai fait ma première chirurgie, j'avais 24 ans. C'était à l'étranger, je suis parti tout seul, c'était quand même un périple, quoi. Pour ma mère, c'était un périple, un peu pour pas grand-chose, quoi. Pour elle, c'était rase-toi la tête et vis ta vie, quoi. Ce qui est l'idéal, normalement.
Alors, le principe de la greffe de cheveux a été découvert il y a quand même un certain nombre d'années, dans les années 40. On a essayé de trouver le moyen de transférer des cheveux de la partie postérieure vers la partie dégarnie. Et on s'est rendu compte qu'en le faisant, ça fonctionnait très bien. Les cheveux gardaient leurs caractéristiques, c'est-à-dire étaient transférés de façon définitive.
Jean Devroy, médecin spécialisé dans la greffe capillaire.
Alors, le principe de la greffe de cheveux, quelle que soit d'ailleurs la technique qui a été choisie, est toujours le même. C'est qu'on a une certaine réserve, on appelle ça une réserve visuelle. On a l'impression, quand on regarde quelqu'un de chevelu, qu'il est extrêmement chevelu, qu'il a des cheveux de partout. Alors qu'en réalité, si on regarde de près, on s'aperçoit que c'est extrêmement parsemé. Donc les expériences qui ont été faites, à un certain moment, ont montré qu'on pouvait réduire une densité de l'ordre de 40 à 60% avant que visuellement ça ne se marque. La greffe de cheveux, c'est trouver une nouvelle balance entre la zone donneuse et la zone receveuse. Et c'est faire ça de façon respectueuse, j'allais dire intelligente, avec une bonne stratégie, parce que le souci, c'est que on est quand même toujours dans cette limite. On pourrait toujours faire mieux si on en avait plus. Il faut connaître ses limites, il faut connaître les données de départ, et il faut choisir la bonne stratégie pour que le travail soit non seulement utile, bien fait, mais pour ne pas hypothéquer une greffe future. Il faut toujours imaginer le patient. Idéalement, il faudrait traiter un patient, quel que soit son âge, comme s'il venait à l'âge de 60 ans. Voilà. S'il venait dans 20, 30, 40 ans, que ferait-on? Que pourrait-on encore faire? Parce que si vous le traitez différemment, eh ben, il y arrivera à ses 60 ans. Et si vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct, vous avez déplacé les greffes à un mauvais endroit, vous avez mis trop de densité à un endroit, ou vous avez gaspillé les greffes parce que votre technique est mauvaise, ben, tout ça aura des conséquences sur le futur du patient.
Design, par exemple, le design des lignes frontales, quand c'est pas bien fait, je le vois assez vite. Il y a un truc qu'ils font aussi, des fois, parce que les follicules devant sont des follicules de un cheveu, super fin. Derrière, c'est des follicules de deux cheveux, et ensuite, c'est des deux et trois cheveux. Et dans les cliniques turques, et pas que les cliniques turques, mais principalement, des fois, ils font tellement ça vite qu'on se retrouve avec des triples devant, ou des multiples. Hein, je le vois tout de suite. Ça fait un phénomène de cheveux de poupée. Et pour moi, c'est pire que de perdre ses cheveux, par exemple, ça.
Alors, tout le monde n'est pas éligible à la greffe de cheveux. Il y a toute une série de circonstances qui vont faire que les patients ne sont pas de bons candidats. Et il faut pouvoir, en tant que médecin, leur dire. D'ailleurs, ils l'apprécient fortement. Idéalement, il faudrait pouvoir, chez chacun, on n'est pas encore capable de le faire via des analyses sanguines ou des analyses génétiques, mais il faudrait pouvoir connaître quelle va être leur situation dans 30 ou 40 ans. Et on voit très régulièrement sur le marché, enfin en consultation, des patients qui ont eu des greffes il y a 20, 30 ou 40 ans et où on essaye de rattraper ce qui a été fait. Ce que je dis aux patients candidats, et surtout aux candidats qui veulent faire des, moi j'appelle ça les patchs, c'est-à-dire des petites zones. Typiquement, quelqu'un qui vient vous dire, ah, je voudrais faire juste les entrées, juste ici, deux petites zones, c'est là que je me dégarnis. Je lui dis toujours, attention, vous mettez le doigt dans un futur engrenage. Imaginez-vous ce que ça donnera si vous ne faites que ça et que vous vous dégarnissez complètement, que vous devenez chauve. Vous garderez vos deux petits patchs, hein. D'ailleurs, les Anglais utilisent un terme qui est nettement meilleur que le nôtre. Nous, on dit toujours, je perds mes cheveux. Les Anglais disent « I'm thinning », je m'affine. Non pas le corps, ben ils le disent aussi pour le corps, mais ils le disent pour les cheveux. Mes cheveux sont en train de s'amincir. Et c'est une belle notion parce que c'est tout à fait ça. C'est le diamètre de chaque cheveu devient vraiment beaucoup plus petit. Et donc, visuellement, ça se marque. Quand les cheveux sont plus fins, on a cette espèce d'aspect. Alors, non seulement plus fins, mais ils poussent moins longs, ils sont moins colorés. Les patients souvent décrivent, voilà, mes cheveux, ils poussent plus. J'arrive plus à m'en servir pour recouvrir. C'est donc ce qui se passe quand on perd les cheveux. On les perd, dans un premier temps, on ne les perd pas vraiment. On s'affine. Enfin, ils s'affinent.
La greffe, je l'ai vraiment fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Après, le regard des autres, bon, c'est un plus, quoi. Mais c'est vraiment pour moi, quand je me regarde de face dans le miroir, je veux pas avoir de calvitie, quoi. J'aurais eu ça à 40 ans, 50 ans. Si je fais un flashback, je me disais, en fait, ouais, j'aurais eu 40, 50 ans, j'aurais rien fait, j'aurais accepté le truc. Il y a beaucoup de gens qui sont chauves, il n'y a pas de problème. Mais là, à 24 ans, je me trouvais trop jeune pour ça, quoi, en fait. Ça m'a vraiment créé un complexe. J'étais quand même à un stade assez avancé.
Là aussi, il y a une espèce de course parfois, entre guillemets, la normalité. Or, pour moi, qu'un homme ait des golfs qui se creusent est normal. C'est un caractère sexuel secondaire. Moi, ça ne me choque pas de voir un homme de 50 ans, 60 ans, avec des entrées importantes, avec même une raréfaction de la chevelure. Ça fait partie de la nature, comme on peut prendre du poids, on prend du ventre quand on vieillit, on se tasse, on a des rides, on a le visage qui s'effondre, et on perd ses cheveux. Et on a des problèmes de dents. Et on doit... Voilà, tout ça, c'est un vieillissement, finalement. La perte de cheveux, c'est un vieillissement, entre guillemets, normal. Mais il est considéré maintenant, enfin maintenant, depuis de tout temps, il est considéré comme anormal.
Après la greffe de cheveux, on est un peu bizarre, parce que c'est la technique affûtée. Il vous prélève quand même un bandeau d'une trentaine de centimètres de long sur 2-3 centimètres de large. Donc on a la grosse cicatrice qui est derrière la tête. C'est un peu inquiétant quand même, parce que bon, c'est invasif. Et ouais, j'étais content, quoi. Je veux dire, j'avais une ligne frontale, j'avais un truc qui dessinait mon visage, quoi. Mais le problème, c'est qu'une greffe de cheveux, ça met un an à... Pour avoir un résultat, il faut attendre un an minimum, donc j'ai pris mon mal en patience. Je savais que les cheveux qui étaient implantés allaient tomber. Ils tombent dans les 3 semaines. Et ensuite, ça repousse à partir de 3 mois jusqu'à 12 mois. Et c'était bien. J'ai des cheveux. J'ai des cheveux, c'est homogène, j'ai des cheveux, c'est pas une densité exceptionnelle, mais c'est beaucoup mieux qu'avant, quoi. C'est beaucoup mieux qu'avant et je suis content. Sachant que je savais que le problème serait résolu que partiellement, parce que, on avait mesuré, pour vraiment traiter toute la calvitie, il aurait fallu 10 000 greffons, je pense, et là j'en ai fait 3 000, quoi. Donc c'était une greffe assez light, mais je savais que j'allais devoir y retourner. D'autant plus que, comme j'ai créé le forum, je passe mes journées à voir des chirurgies, à voir des autres patients, à voir ce qui est possible, pas possible. Et plus je suis dedans, plus j'y pense, plus j'ai envie d'en faire une deuxième, quoi. Ouais, j'y retourne en 2007 pour une autre FUT en Belgique. Et ouais, le but, c'est de rajouter de la densité dans le premier tiers frontal, en fait. Et ça a fonctionné nickel. Seul truc, c'est que sur ma première chirurgie, ils ont pris un peu trop haut la bandelette. C'est-à-dire que c'était pas dans la zone safe. C'est des cheveux qui sont un peu trop hauts et qui peuvent tomber. Donc sur la deuxième chirurgie, on a décidé qu'on repartait sur une nouvelle cicatrice plus safe. Même quand c'est bien fait, ça fait 30 cm de long et 2-3 cm de large quand même, quoi. On ne peut plus se raser la tête. Je me rase la tête, j'ai 2 cicatrices derrière la tête. On pourrait croire que je me suis fait ouvrir le crâne, trépaner ou je ne sais pas trop quoi, mais je ne peux plus me raser la tête. Enfin, je pourrais me raser la tête, mais il faudrait que j'assume d'avoir 2 cicatrices visibles.
Et alors, en tout, vous en avez fait combien des greffes ?
J'en ai fait 6. Ma zone donneuse est épuisée. Mon cuir chevelu n'a plus assez de laxité pour qu'on puisse en reprendre avec la bandelette. Donc, la dernière ressource qui reste, c'est les poils corporels. La barbe qui repousse bien, c'est des poils qui viennent du visage. Donc, c'est à peu près pareil que des follicules capillaires. Et ça a l'avantage de pouvoir pousser en longueur, contrairement aux autres poils. Et la deuxième source, c'est le torse, quand c'est possible.
Et alors vous allez faire ça ?
Ouais, c'est déjà fait, ouais. C'est déjà fait.
Alors, il est absolument impossible de greffer les cheveux d'un patient vers un autre. La seule exception, c'est les frères jumeaux. Ce qui est embêtant, c'est que quand ils sont frères jumeaux, ben, ils perdent leurs cheveux de la même manière. Donc il faudrait qu'il y en ait un qui se sacrifie pour l'autre. Et là, ça pourrait effectivement marcher. Et ça marche, hein. Il y a des expériences qui ont été faites, ça marche. Mais même entre deux frères qui ont certaines génétiques en commun, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, sauf si on les met sous médication anti-rejet, mais qui ont des effets secondaires et qui apportent des contraintes. Et donc, en pratique, on ne le fait pas simplement parce que la vie n'est pas en danger, la vie du patient n'est pas en danger, et qu'on ne veut pas prendre le risque de le mettre sous médication juste pour une question de greffe de cheveux.
Moi, quand je me vois dans le miroir de face, je suis content, je ne me pose plus la question de savoir si j'ai un problème ou pas. Et puis, à côté de ça, j'ai réussi aussi à transformer le truc... En expérience professionnelle, j'ai réussi à en faire mon métier. Donc au final, moi, je peux en être que content. Ça m'a changé au niveau émotionnel, sentimental et dans ma vie de tous les jours. Et même au niveau professionnel, ouais, ça a tout chamboulé. Ouais. Ça reste une procédure médicale. C'est une chirurgie. Je veux dire, c'est quand même tellement plus facile de se raser la tête et de vivre sa vie et de pas faire une fixette là-dessus. Quand c'est possible, c'est l'idéal, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous décrire vos cheveux ?
Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais, c'est une très bonne question. C'est un peu un champ de bataille, je dirais. La bataille est pas loin d'être gagnée. Pour l'instant, elle est en voie d'être gagnée, mais ça reste un champ de bataille quand même.
J'aime ton pâle beauté, tes sourcils surbaissés, d'où semble couler des ténèbres, tes yeux, quoique très noirs, m'inspire des pensées qui ne sont pas du tout funèbres.
Les cheveux en 4, épisode 3, l'art du cheveu. Une série documentaire de Claudia Prolongeau, réalisée par Clémence Grosse. Avec les enfants de l'école élémentaire Léonard de Vinci à Nogent-sur-Marne.
Mes cheveux n'ont rien d'extraordinaire.
Michel Perrault.
Ils pourraient être blancs. Ils sont blonds parce que j'ai un peu choisi ça. Ils se coiffent assez facilement. C'est tout ce que j'ai à dire de mes cheveux.
Bertrand Lançon.
Mes cheveux à moi. Eh bien, en dépit de mon âge, j'en ai beaucoup. Ce qui fait que j'aime bien les laisser pousser et les porter mi-longs, comme à l'époque de mon adolescence, parce que j'aime bien la caresse du vent.
Alain Bergala.
Alors, l'histoire de mes cheveux à moi, ça remonte à l'enfance, évidemment. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais une raie à droite. Et à l'époque, les hommes avaient la raie à gauche. Les garçons qui avaient la raie à droite, c'est qu'ils étaient les premiers garçons de leur mère.
Michel Messu.
Eh bien, mes cheveux sont assez rares désormais, puisque j'en ai plus. Enfin, j'en ai quelques-uns que je rase régulièrement pour avoir un crâne bien lisse.
Ambre Weber.
Mes cheveux sont châtains, naturellement ondulés, en carré court avec franges.
Muriel Kabil.
Alors, ils sont crépus, il y a un début de cheveux blancs qui commence à apparaître, mais sinon, ils sont noirs de façon naturelle, pas noirs trop foncés, non étirés, on va dire qu'on est sur une 20-30 cm, et étirés, ils sont dans mon dos.
Nicolas Boulez et Jean Devroy.
Alors, je suis dégarni légèrement sur l'arrière du crâne. Je dois dire, je ne suis pas obsédé par cela. Et pour moi, ça fait partie d'un vieillissement classique et normal. Donc voilà, je ne suis pas très interventionniste pour moi-même.
Merci à l'Opéra du Rhin, à Élise Aignon et à Jeanne Boézek.
Mes cheveux sont mi-longs.
Lecture, Karine Aubin et Slimane Yefsa.
Ils sont naturellement ondulés.
Prise de son, Hervé Dubreuil.
Je l'ai...
Alexandre James. Guillaume Ledu.
Soigne peu.
Lucien Lefebvre.
Je les froisse pour accentuer les boucles.
Mixage, Guillaume Ledu.
Je ne sais pas quelle est leur couleur exacte.
Documentation, Annelise Signoret.
Sûrement avec beaucoup de blanc.
Documentation musicale, Marion Guilhem et Antoine Vuillot.
Mais je les teins encore.
Archivina, Emmanuel Luccioni.
Parce qu'il faut un peu de temps pour assumer peut-être les cheveux blancs.
Coordination, Johanna Bedeau. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.
Nuit sans étoiles.
À suivre, Les cheveux en 4, épisode 4, La grande perte.
Obscure.